Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran. Bienvenue dans cette émission Table ronde dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons en fait évoquer avec un analyste politique, un des géopoliticiens belges spécialisé des questions internationales, ce qui se passe actuellement en Méditerranée. La guerre est désormais, on peut le dire, peut-être ouverte. La guerre du gaz, il y a des tensions actuellement entre Chypre et la Turquie, il y a la tension actuellement entre la Turquie, la Libye et l'Égypte sur en fait cette question ô combien importante. Pour vous en parler, comme je viens de vous le dire, on va en fait partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un géopoliticien belge des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Abbas, un grand bonjour à tous vos auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
C'est un plaisir partagé. Luc Michel, je viens de lancer en fait le sujet. Peut-on dire que la guerre du gaz est désormais ouverte en Méditerranée?
Oui, et le problème c'est qu'elle est sous-estimée, c'est-à-dire que on présente ça dans les médias occidentaux comme une séquelle de la bataille pour Tripoli, c'est-à-dire de la lutte d'un côté entre le gouvernement de Tripoli, soutenu par Erdogan et le Qatar, et le maréchal Haftar, qui est en action pour s'emparer de la capitale, qui lui est soutenu par l'Égypte, mais également par la Russie, discrètement par la France et par les Émiratis. Lorsqu'on lit la presse occidentale, on présente ça comme un événement lié en fait à la guerre de Libye, à sa nouvelle phase. C'est tout à fait inexact. C'est un événement de très grande dimension qui concerne l'OTAN directement, puisqu'il y a de nouveau une ligue de fracture au sein de l'OTAN, dont sont membres deux des protagonistes de ce conflit, c'est-à-dire la Grèce et la Turquie. La principale opposition pour le moment, elle n'est pas encore entre l'Égypte et la Turquie, elle est entre la Grèce et la Turquie. Lorsque vous lisez, moi je la lis tous les jours parce qu'il faut lire l'adversaire, lorsque vous lisez la presse israélienne ou lorsque vous lisez la presse turque, vous voyez tout à fait une autre vision du conflit. Qu'est-ce qui se passe au départ? Ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié proprement à la bataille de Tripoli. Ce sont les ambitions de la Turquie d'Erdogan en Méditerranée, ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, et en même temps, une deuxième chose, la volonté de s'emparer des champs pétro-gaziers qui sont offshore en Méditerranée du Nord. Qu'a fait la Turquie? Elle est l'un des principaux soutiens du gouvernement Farage depuis des années. On pense que l'intervention de la Turquie en Libye, c'est quelque chose de récent. C'est tout à fait faux. Les Turcs sont un des principaux participants à la destruction de la Jamhuria de Kadhafi dès 2011. Et aujourd'hui, Erdogan dit « Je viens en Libye remettre de l'ordre dans le chaos de Sarkozy ». Il est un des protagonistes de la destruction de la Libye. Et en particulier, il a soutenu les mouvements islamistes radicaux, comme il l'a fait en Syrie, qui était proche évidemment des islamo-conservateurs du parti d'Erdogan, l'AKP. En particulier, la Turquie est particulièrement liée à la ville de Misrata, aux hommes d'affaires islamo-conservateurs eux aussi libyens, qui ont en fait organisé l'insurrection contre Kadhafi en 2011. Aujourd'hui, c'est très important parce que si du côté d'Haftar, il y a une armée autoproclamée libyenne nationale, qui est en fait l'armée privée d'Haftar, qui a privatisé la petite armée libyenne de 2014-2015, et qui est soutenue par l'Égypte, à un moment donné par les Américains, on y reviendra, également par les Français discrètement, puisqu'ils prétendent officiellement soutenir Tripoli, et face à eux, il n'y a pas d'armée libyenne de Tripoli. C'est une coalition de milices islamistes radicales qui rappelle un peu la Syrie des années 2012 et 2013. Et donc, leur soutien principal, c'est Erdogan. Erdogan qui a empêché, lorsque Haftar s'est tourné vers Tripoli, il envisageait une espèce de blitzkrieg, une guerre éclair, ce qui est le seul moyen de prendre Tripoli. Tripoli, c'est une cité de presque 3 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas la prendre dans le cadre de combats de rue, etc. Vous pouvez la prendre dans une offensive éclair, comme ça s'est passé en août 2011, lorsque les Occidentaux s'en sont emparés. Mais la Turquie a empêché Haftar de mener cette blitzkrieg, en particulier en engageant une guerre des drones autour de la localité de Gariab, qui était le pivot stratégique des forces de Haftar vers Tripoli. Mais revenons à ce côté de la guerre de Libye, parce que ça a conduit à quelque chose. C'est-à-dire que, soutenant le gouvernement de Tripoli, mais un peu comme la corde soutient le pendu, Erdogan les a obligés à faire un accord, une rectification de frontières. Il a étendu le plateau continental turc de 40 000 km à 180 000 km pour qu'ils viennent toucher le plateau continental de la Libye, établissant une frontière commune maritime entre deux États qui n'en ont pas. Il faut savoir qu'en droit international, la possession, la continuité du plateau continental, c'est-à-dire vers la mer, en dessous de la mer, c'est cela qui détermine les frontières maritimes et la possession de ce plateau. La Turquie, évidemment, pour faire cet accord avec la Libye, elle a tout simplement fait un véritable holdup international, illégal évidemment, sur les plateaux continentaux de plusieurs îles grecques, dont la grande île de Rhodes, et sur le plateau continental de Chypre. Chypre ayant déjà une particularité, c'est que depuis des années, elle est l'objet d'un bras de fer géopolitique et diplomatique par la Turquie, qui veut s'emparer des champs pétrogaziers qui sont autour de l'île de Chypre. Chypre, depuis 1975, elle est divisée en deux. Il y a une Chypre officielle, Chypre du Sud, grecque, qui est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. Et il y a une Chypre du Nord, qui est une république autoproclamée, qui en fait est occupée par l'armée turque, et qui donc a divisé le pays en deux. C'est une des lignes de fracture de l'OTAN, puisque la principale victime de tout cela, c'est la Grèce, et que la Grèce est comme la Turquie, membre de l'OTAN. Lorsque l'OTAN explique qu'elle apporte la paix ou la stabilité, c'est faux. Dans le cas de la Grèce et de la Turquie, ça n'a donné aucune stabilité depuis les années 1960. Les Turcs ici donc viennent de faire un hold-up. Ils en sont très fiers. Erdogan est intervenu à la TV. Ils ont publié dans la presse turque de grandes cartes géopolitiques où ils montrent l'accroissement du territoire turc. Ils se vantent d'avoir capté les richesses du sous-sol. Mais surtout, il y a maintenant les premières étincelles d'une guerre du gaz. Il y a d'une part un conflit ouvert maintenant avec la Grèce. La Grèce a expulsé l'ambassadeur de Libye, déclaré persona non grata la semaine précédente, et il a été expulsé d'Athènes. Et la Grèce, avec l'aide de l'Égypte, nous allons y revenir, veut rétablir sa souveraineté sur les plateaux continentaux des îles grecques. Parallèlement à ça, la marine turque, la marine militaire, expulse des bateaux grecs de leur propre zone continentale, prétendant qu'elle est désormais la propriété de la Turquie. Il y a derrière tout cela un front géopolitique qui s'est créé. C'est d'un côté la Turquie, les islamistes, donc le gouvernement Farage. Il y a également dedans le Qatar. Vous noterez que le Qatar et la Turquie, la nature de leur alliance, elle n'est pas seulement idéologique. Ce ne sont pas seulement des islamo-conservateurs soutenant le terrorisme international, mais ce sont des États pétrogaziers. L'alliance du Qatar et de la Turquie, elle est autour du gaz. Il faut savoir que les États gaziers, les premiers exportateurs, c'est la Russie, puis l'Iran, c'était, devrais-je dire, et la Turquie est la septième, le Qatar est la troisième. Mais les Américains ont changé la donne du marché mondial des hydrocarbures. Le premier exportateur mondial maintenant de gaz, c'est les Américains, depuis septembre 2015, depuis Obama. C'est pas du tout Trump qui a lancé ça, même s'il a amplifié le phénomène. Ils sont aujourd'hui les premiers exportateurs mondiaux. Ils manipulent le marché mondial. Et en Méditerranée, ils sont très satisfaits de ce qui se passe. Une guerre du gaz, évidemment, ne faisant que renforcer leur emprise sur le marché mondial du gaz. Face à eux, il y a une alliance qui était encore improbable il y a quelques mois, c'est la Grèce et l'Égypte. L'Égypte, c'est le mentor de Haftar, c'est l'État qui le soutient le plus. Ils sont alliés dans ce front anti-turc aux Émiratis, qui sont la grande puissance maritime régionale qui a émergé de la guerre du Yémen. Les Émiratis contrôlent la mer Rouge, mais également ils ont des positions donc autour de Haftar, autour de Tobrouk, de Benghazi, etc. Et dernier maillon de cette coalition, donc il y a cette Égypte de Haftar qui est puissante, qui a la plus grande armée d'Afrique du Nord, avec l'armée algérienne, mais aussi qui préside pour le moment l'Union africaine, ce qui explique en partie l'impuissance de l'Union africaine dans le dossier libyen, l'impossibilité de désigner un négociateur commun avec l'ONU, etc. Et voilà donc ce front qui est à l'œuvre derrière Haftar dans la bataille de Tripoli et qui intervient maintenant dans cette contestation des zones maritimes autour de la Grèce, de la Turquie et de Chypre. Derrière tout ça, il y a une coalition qui est encore plus vaste, puisque c'est la conférence méditerranéenne sur le gaz. Elle regroupe, bien entendu, la Turquie en a été évacuée, en a été exclue, la Syrie et le Liban également. Elle regroupe l'Égypte, elle regroupe la Grèce, elle regroupe Chypre, Chypre du Sud, bien entendu. Elle regroupe différentes multinationales du gaz françaises, etc. Et elle a conduit, en fait, à un bouleversement du soutien à Farage. Jusque-là, Farage était soutenu, le gouvernement de Tripoli, par l'Italie, puisque l'Italie dispute les champs gaziers libyens à la multinationale française Total. Total étant discrètement, avec Macron, aligné derrière Haftar, l'armée française, les forces spéciales françaises, les drones français, les armes de pointe françaises sont présentes dans la bataille de Tripoli du côté de Haftar. Jusque-là, les Italiens soutenaient Farage pour cette contestation des champs pétroliers. Les prétentions turques en Méditerranée du Nord, cette rectification des frontières maritimes, a conduit tout à fait à un changement de la position italienne. Les Italiens sont actifs dans cette conférence méditerranéenne et ils sont présents auprès des adversaires de la Turquie. Voilà ce qui se passe. Il faut ajouter que discrètement, puisque c'est toujours l'hypocrisie des pays arabes avec Israël, discrètement, Israël appuie cette conférence méditerranéenne sur le gaz. D'autant plus qu'elle discute.
Et pourquoi, Luc Michel, pourquoi cette prise de position d'Israël, d'autant plus qu'on sait très bien qu'il y a quand même des tensions entre Israël et le Liban autour de la question, si vous voulez, des gisements gaziers.
Parce que la gourmandise géopolitique et géoéconomique de la Turquie a tout bouleversé. À un moment donné, il y a quelques années, Erdogan, discrètement, était l'allié d'Israël dans le domaine du gaz et son fils a été impliqué dans un gigantesque scandale avec des firmes israéliennes. Mais la guerre de Syrie, d'une part, a bouleversé les choses et maintenant cette rectification de frontières qui spolie, en fait, les droits israéliens aussi bien que les droits égyptiens. Et les Israéliens, d'ailleurs, étant engagés dans des champs de prospection avec la Chypre du Sud, ainsi qu'avec des firmes russes. C'est ce qui fait la dangerosité de cette guerre du gaz. C'est qu'on a un peu l'impression qu'on est en août 1914 dans les Balkans. Vous savez que la guerre de 1914-18, elle a éclaté en raison d'une série d'alliances comme cela. Les Russes étant les alliés des Serbes, les Serbes étant opposants à l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie étant alliée à l'Allemagne, l'Allemagne étant opposée à la France, tout ça a donné une guerre mondiale. C'est un peu une configuration qui rappelle ça dans cette guerre du gaz. Dès que vous touchez quelque chose, vous aboutissez dans d'autres alliances géopolitiques, dans d'autres alliances économiques, et vous touchez de plus en plus d'intérêts. Les Américains, je vous l'expliquais, étant les grands gagnants de cette affaire, puisque l'instabilité en Méditerranée est nécessaire, et par exemple, dans cette affaire qu'on appellerait le triangle Erdogan, Farage à Tripoli et Haftar, ça met à mal le rapprochement qui avait lieu entre la Turquie et la Russie, même si ce rapprochement était extrêmement limité et s'il était opportuniste du côté des Turcs. Erdogan, par exemple, pour dénoncer Haftar, met en place vis-à-vis des Américains, je vais vous expliquer le rôle américain parce que eux viennent d'apparaître dans l'affaire également, il dénonce auprès des Américains l'alignement d'Haftar, qui présente comme le nouveau Bachar el-Assad libyen, sur les Russes. À partir de ce moment-là, une contestation entre l'Égypte, qui est toujours la principale alliée de l'armée américaine, et la Turquie, ça évidemment va nuire également au rapprochement entre la Turquie et la Russie, ça va quasiment le rendre impossible. Et la question de la prospection gazière en Chypre du Sud, en Chypre du Sud également, vous devez savoir que la Russie est présente diplomatiquement en Chypre du Sud, qui a une très forte communauté russe, qui a un poids politique, notamment une presse en langue russe importante. Et la Chypre du Sud, c'est un peu devenu la riviera de la Russie. De l'autre côté, évidemment, la Turquie qui soutient Chypre du Nord, et maintenant les islamistes libyens, ça change toute la donne. Comment sont apparus les Américains? Il y a un nouvel homme fort à Tripoli. C'est Fatih Chagag. C'est le ministre de l'Intérieur. Il a conduit une délégation la semaine précédente pour discuter de la bataille de Tripoli et de Haftar aux États-Unis. Et apparemment, il a convaincu l'administration Trump, et notamment Pompeo. Les Américains viennent de demander à Haftar d'arrêter la bataille de Tripoli, ce qui ne fera pas, évidemment. Et ils sont les grands gagnants de toute cette tension diplomatique. Et je vous l'expliquais, plus il y a de problèmes dans le gaz en Méditerranée et dans les États producteurs, quels qu'ils soient, du côté de la Turquie ou du côté de l'Égypte et de la Grèce, ce sont les Américains les gagnants, puisque ça va renforcer leur hégémonie sur le marché du gaz et ça va probablement conduire ceux qui cherchent à une nouvelle baisse des tarifs. Vous avez vu, pour comprendre la complexité de ce problème et pourquoi c'est le grand conflit géopolitique du moment, les Occidentaux ne s'en rendant pas encore compte ou ne voulant pas l'avouer, vous avez vu qu'il y a eu, il y a 15 jours, un sommet du gaz à Malabo. Le sommet des pays exportateurs de gaz qui regroupait la Russie, Gazprom notamment, qui regroupait votre vice-président, l'ancien président de votre banque centrale, un ambassadeur, qui regroupait le Nicaragua, qui regroupait l'Algérie, qui regroupait l'Égypte précisément, et qui regroupait les pays exportateurs africains, regroupés derrière le petit État, mais puissant au niveau du soft power géopolitique, qui est la Guinée équatoriale, qui est le leader de l'exploitation mondiale de l'industrie gazière, avec leur grande usine ultramoderne de plus de 100 Europa. À partir de ce moment-là, le gaz, c'est un élément déterminant, et les États-Unis sont extrêmement mécontents de ce sommet du gaz. Ils sont extrêmement mécontents de cette tentative des pays producteurs de reprendre la main sur le marché du gaz, dont le but, c'est une OPEP du gaz qui fixe elle-même le prix du mètre cube de gaz qui est actuellement fixé par les États-Unis par rapport à leur production de gaz de schiste. Il y a également au milieu de tout ça le choc entre le gaz américain et le gaz russe, le but des Américains étant d'expulser Gazprom d'Europe et de remplacer les Russes dans la fourniture des pays de l'Union européenne, ce qui empêcherait une fois de plus tout rapprochement entre les Européens et les Russes, mais également qui approfondirait la crise économique en Russie. Vous avez donc une équation, quel que soit l'endroit où on regarde, vous avez une équation qui est extrêmement dangereuse. La première phase de cette guerre, elle risque d'éclater autour des îles grecques et de Chypre. Ça sera la deuxième étincelle après la bataille de Tripoli. La marine grecque et la marine égyptienne parlant de remettre de l'ordre et de récupérer le contrôle des champs gaziers, des plateaux continentaux, des îles grecques. Voilà donc ce qui se passe. On est dans une conjonction. Maintenant, qu'est-ce qui a décidé Erdogan? Il faut comprendre quelque chose. La première chose, c'est que la Turquie est en crise économique. Ce qui avait fait le succès d'Erdogan, c'était le succès, la croissance turque. Ça, c'est terminé, en grande partie, d'ailleurs, à cause de la crise syrienne, qui était une mauvaise opération pour la Turquie, même si la Turquie a pillé et pille encore la Syrie. Vous savez qu'actuellement, le gaz qui est extrait dans les champs, le pétrole, pardon, qui est extrait dans les champs pétroliers syriens sous contrôle américain, il est revendu à la Turquie à bas prix, qui exporte du pétrole volé à la Syrie. Donc Erdogan a profité de l'occasion pour faire un coup de force. Il a profité de la situation libyenne. Il a fait un espèce de chantage à Farage à Tripoli, l'obligeant à cette rectification de frontières qui ne rapporte rien à la Libye, de façon à lui dire, en disant à Tripoli, nous vous armons, nous vous défendons, mais nous voulons ces champs pétroliers et gaziers. Une fois que cela a été fait, c'est une opportunité. Mais on peut penser à quelque chose d'encore plus pervers. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une grande comédie autour du trio russe, turc et américain. Depuis le début, la Turquie a une position opportuniste. Elle se dit proche de la Russie, mais elle-même une politique anti-russe et anti-syrienne. En Syrie, l'Iran ayant souvent dénoncé celle-ci, les accords d'Astana et de Sotchi ne sont respectés à aucun niveau par la Russie, et la Russie est toujours le bon élève de l'OTAN.
Merci.
Lorsqu'il y a eu le premier sommet de l'OTAN à Bruxelles en 2017 avec Trump, lorsque Trump a dit que les pays de l'OTAN doivent pousser leur participation entre 2 et 3 % de leur budget, de leur PIB, eh bien, il y a un État qui a dit, mais nous l'avons déjà fait, c'est la Turquie. Elle s'est présentée comme le bon élève de l'OTAN et elle a offert à Istanbul le quartier général des marines de l'OTAN, qui a été inauguré, entièrement payé par la Turquie. À toutes les réunions de l'OTAN, la Turquie se présente comme le bon élève et la grande querelle diplomatique sur les F-35, les F-400, etc., ça se résume actuellement à une grande comédie.
Merci
on
beaucoup.
On peut penser que les Américains aient encouragé Erdogan. Je ne pense pas qu'Erdogan prendrait un risque qui est celui d'affronter tous les grands États de la Méditerranée s'il n'avait pas des assurances, non seulement du côté de l'OTAN. Je le répète, l'OTAN qui n'a rien fait dans le conflit entre la Grèce et la Turquie, et entre Chypre et la Turquie, l'OTAN n'a jamais rien fait contre Ankara. Donc on peut penser à une équation perverse. Je vous le répète, les grands gagnants de cette guerre du gaz étant actuellement les États-Unis, ce que, curieusement, aucun des observateurs qui observent la géopolitique en Méditerranée et en Afrique du Nord de relève.
Merci beaucoup Luc Michel, géopoliticien belge, d'avoir été avec moi pour cette émission Table Ronde depuis Bruxelles. Merci infiniment.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.